Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment très court, enfin, c'est quelques paragraphes à peine.
Oui, ça se lit en 2 minutes.
C'est ça. Mais ce qui est frappant, c'est la façon dont ce texte s'attaque frontalement à un problème super universel. En gros, c'est l'angoisse de ne jamais être à la hauteur.
Absolument, c'est un sentiment que beaucoup connaissent.
Et le texte s'intitule L'encre qui ne lâche jamais. Et ben, il propose ni plus ni moins qu'un remède radical contre ce qu'on pourrait appeler, tu sais, le syndrome de l'imposteur spirituel.
C'est une excellente façon de le formuler.
Et du coup, l'idée de notre plongée dans ces écrits d'aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser une transition psychologique, une transition identitaire très précise que l'auteur décrit.
Oui, parce que l'objectif, c'est de comprendre comment l'esprit humain peut passer, disons, de la mentalité d'un invité temporaire, quelqu'un qui marche sur des œufs de peur d'être mis à la porte, à la posture beaucoup plus sereine d'un héritier permanent.
C'est exactement ça. Et je suis vraiment impatiente de voir comment on va aborder ça.
Moi aussi, je suis ravi d'être là pour cette analyse, parce que c'est un texte qui mérite qu'on s'y arrête longuement. En fait, il touche au cœur même de l'insécurité humaine. La source explore les fondements de la sécurité spirituelle et surtout la libération d'une culpabilité écrasante. Une culpabilité que beaucoup de gens portent au quotidien comme une sorte de bruit de fond permanent, tu vois.
Ouais, un bruit de fond épuisant, c'est clair.
Pour bien saisir la mécanique de ce document, on va devoir décortiquer les métaphores qu'il utilise. Elles sont hyper ancrées dans le réel, mais il y a aussi une notion presque mystique vers la fin, ce qu'il appelle l'union de substance.
L'union de substance, oui.
C'est cette notion précise qui donne tout son sens au titre et qui explique pourquoi cette fameuse encre ne cède pas sous la pression.
Tout à fait. Et le ton est donné dès la première ligne. Le texte s'ouvre sur une adresse directe, très chaleureuse. Je cite le texte. Il dit que la lumière t'éclaire ce matin.
C'est très bienveillant.
C'est ça, c'est bienveillant. Ça pose un cadre illuminateur d'entrée de jeu. Alors, d'accord, décortiquons ça. L'auteur nous plonge immédiatement dans une scène super visuelle.
La fameuse table.
Ouais. Il demande d'imaginer la situation suivante. On est invité à la table d'un roi. Et attention, ce roi ne nous a pas juste invités pour un repas de courtoisie, vite fait, non, il nous a formellement adoptés.
C'est le point crucial, l'adoption.
Sauf que, au lieu de profiter du festin, de se détendre, en fait, la réaction décrite est tout autre. La personne s'assoit, mais elle reste complètement figée sur le bout de sa chaise.
Le dos ne touche même pas le dossier.
Exactement. Elle est prête à s'enfuir au moindre faux pas. Elle est terrorisée à l'idée qu'on vienne, genre, lui taper sur l'épaule pour lui dire qu'il y a eu une erreur sur le casting et qu'elle doit rendre sa place.
Cette image de la chaise, franchement, elle est d'une précision clinique.
Ah oui.
Oui, parce qu'elle illustre parfaitement ce décalage cognitif monumental qui peut exister entre un statut officiel et le ressenti intérieur.
C'est hyper intéressant, dit comme ça.
Le texte parle d'une adoption par un roi. Juridiquement, le statut a changé de manière définitive, mais le système nerveux de la personne, lui, il n'a pas du tout intégré cette nouvelle réalité.
Le corps reste en mode survie, quoi.
Voilà. On est en plein dans l'angoisse de la performance, mais poussé à son paroxysme. L'individu vit dans la terreur constante que sa position privilégiée à cette table dépende exclusivement de sa perfection morale ou de son comportement à la seconde près.
Ce qui n'a aucun sens quand on y pense.
Exactement. Si on analyse ça froidement, c'est totalement illogique. Une adoption, par définition, ça crée un lien filial, un lien inconditionnel.
C'est clair, on ne peut pas être un enfant adopté et se comporter comme un simple employé en période d'essai qui craint le licenciement à la moindre faute de frappe.
C'est une très bonne analogie. Et pourtant, c'est bel et bien cet état de précarité émotionnelle que l'auteur pointe du doigt avec insistance.
C'est un peu comme se retrouver à un dîner de gala hyper mondain, tu vois, et être complètement tétanisé à l'idée d'utiliser la mauvaise fourchette pour le poisson.
Ah oui, l'angoisse sociale par excellence.
Sauf qu'ici, l'enjeu est décuplé à l'infini. Parce que ce qui est sur la table, ce n'est pas juste l'étiquette, c'est le salut de l'âme ou la valeur intrinsèque de la personne. La tension musculaire de cet invité sur le bord de sa chaise, on la ressent presque en lisant.
C'est palpable.
Mais alors du coup, comment ce texte propose-t-il de désamorcer une panique interne aussi profonde?
Eh bien, la bascule s'opère par une intervention directe du roi. Le texte décrit un moment de réconfort très physique.
Oui, il ne reste pas à distance.
Non, le roi le soit cette hypervigilance, cette détresse silencieuse. Il s'approche, il pose sa main sur l'épaule de l'invité tremblant et lui glisse ces mots très précis. Ce n'est pas ta conduite qui t'a amené ici, C'est mon sang.
Waouh, c'est puissant.
Cette phrase, elle vient briser en un instant toute la logique de la méritocratie humaine. Elle déplace brutalement l'attention. On passe d'un système basé sur la performance de l'invité.
Ce qui fait de bien ou de mal, en somme.
Voilà. On passe de ça à un système basé sur la nature du lien qui les unit.
La conduite contre le sang, c'est vraiment l'opposition centrale de cette première partie.
Absolument.
Et le texte demande explicitement d'occuper notre place, de nous asseoir au fond du siège et de cesser de vivre en invité temporaire pour vraiment endosser le rôle d'héritier permanent.
C'est une transition fondamentale.
Et d'ailleurs, l'auteur précise bien ce qu'implique ce statut d'héritier. Il parle d'avoir un droit de cité définitif. Je suppose que le mot « définitif » n'est pas posé là au hasard.
Ah non, pas du tout. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'utilisation du mot « définitif » est vraiment la clé de voûte de cette guérison psychologique.
Comment ça ?
Un invité temporaire vit dans la conditionnalité. Son séjour dépend de son utilité, de sa politesse, de sa capacité à ne pas déranger. Dès qu'il devient un fardeau, l'invitation prend fin.
C'est précaire.
Alors que l'héritier permanent, lui, avec ce droit de cité définitif, il évolue dans l'inconditionnalité. La monnaie d'échange à cette table, ce n'est plus le comportement de la personne, ses succès ou ses échecs moraux.
Le paradigme a complètement changé.
Exactement. La seule monnaie qui accourt désormais, c'est ce sang, qui symbolise une parenté indiscutable. C'est un lien vital qui ne peut pas être effacé par une simple erreur de parcours. Et ce geste de la main sur l'épaule, il sert à ancrer physiquement cette réalité dans le corps de l'individu angoissé.
Ça me fait penser à la façon dont l'auteur enchaîne ensuite. Pour ancrer ce concept spirituel dans notre réalité matérielle la plus triviale, il utilise une métaphore immobilière.
C'est très surprenant, mais très efficace.
Oui, c'est inattendu pour un texte de cette nature, mais ça marche terriblement bien. Le texte affirme, et je cite, « Ta position dans le ciel n'est pas un contrat de location que tu peux perdre à cause d'un retard. C'est un héritage éternel scellé par l'esprit. »
Cette opposition entre le contrat de location et l'héritage, ça attaque directement la racine de notre insécurité moderne.
C'est vrai que la location, ça parle à tout le monde.
Concrètement, vivre sous un contrat de location, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si on rate un paiement, si on enfreint une clause du bail, le propriétaire a le droit légal de nous expulser.
C'est transactionnel.
C'est une relation totalement transactionnelle et révocable. Transposée à la spiritualité, ça signifie croire que la moindre faute morale, le moindre retard dans notre développement personnel, peut nous faire perdre notre place dans les cieux. On se comporte comme un locataire spirituel sur la sellette.
C'est un peu le stress de louer un tout petit appartement à Paris avec un propriétaire super intransigeant.
Exactement ça.
On a peur de faire une rayure sur le parquet, on angoisse à l'approche du premier du mois. Et l'auteur oppose cette angoisse perpétuelle à l'héritier d'une maison de famille. Un héritier peut très bien rayer le parquet, ça reste sa maison. Il ne sera pas mis à la rue pour de la maladresse.
C'est l'idée parfaite. L'héritage est identitaire, il n'est pas transactionnel. Et pour bétonner cette garantie absolue, la source ne se contente pas de métaphores. Elle introduit une caution juridique en citant directement un passage biblique.
Oui, le passage aux Éphésiens.
Éphésiens chapitre 1, verset 13, précisément. Et l'auteur précise qu'il utilise la version amplifiée du texte. On y lit « En lui, vous aussi, quand vous avez entendu la parole de vérité et que vous y avez cru, vous avez été scellés avec le Saint-Esprit promis. »
Et la version amplifiée ajoute un truc fort.
Oui. Elle ajoute une phrase qui vient enfoncer le clou, estampillé du sceau de la propriété de Dieu.
Estampillé du sceau de la propriété. Il y a un poids institutionnel, presque douanier dans ce vocabulaire. C'est du solide.
C'est parce que le sceau, surtout dans le contexte antique ou royal, ce n'est pas juste une décoration sur un bout de papier.
C'est une garantie légale.
Quand un souverain a posé son sceau sur un document, un décret ou même une marchandise, ça signifie que cet objet lui appartenait en propre. Il était placé sous son autorité et sa protection absolue.
Personne ne pouvait y toucher.
Personne. Aucun fonctionnaire subalterne, aucun ennemi ne pouvait contester cette propriété ou l'altérer sans s'attaquer directement au souverain lui-même. En utilisant cette image de l'estampillage, le texte fait passer l'individu de l'angoisse de l'expulsion locative à la certitude glacée d'une appartenance intouchable.
Et le texte justifie cette protection par une logique économique assez implacable. Juste avant cette citation, il y a cette phrase très poignante. « Sache que ton père t'aime trop pour laisser tes faiblesses annuler l'achat qu'il a fait à un prix infini. »
C'est un point de bascule.
L'idée qu'un prix infini a été payé, en fait, ça change complètement la perspective sur nos propres erreurs, non?
C'est un argument rationnel d'une grande profondeur. L'auteur demande de réfléchir en termes de proportionnalité.
De proportionnalité, c'est-à-dire?
Eh bien, d'un côté de la balance, il y a les faiblesses humaines, les défaillances quotidiennes, les erreurs de jugement, nos petites et grandes fautes.
Ce qui est fini, limité?
Exactement. Et de l'autre côté de la balance, il y a un achat réalisé à un, je cite, prix infini. Mathématiquement, une valeur infinie absorbe et annule toute dette finie.
C'est d'une logique imparable.
La logique posée ici, c'est qu'il serait absurde que celui qui a payé le prix maximum imaginable laisse de simples maladresses humaines faire capoter tout l'investissement.
Ah oui, vu comme ça.
La garantie de rester à la table du roi ne repose donc plus du tout sur la capacité de l'invité à se tenir droit, mais sur l'immensité du prix qui a été déboursé pour qu'il s'y trouve.
Ce qui nous amène, de manière très fluide d'ailleurs, à ce fameux point de non-retour que le texte intitule littéralement « Le secret ».
Le fameux secret d'union.
C'est ça. On ne regarde plus nos propres mains qui tremblent sur la table, on regarde ce sceau indélébile. Et l'auteur révèle pourquoi on ne peut pas perdre sa place par accident. C'est lié à ce qu'il appelle une union de substance.
Avec des majuscules.
L'expression, entre parenthèses, précise qu'il s'agit d'une fusion parfaite avec Christ, qualifiée d'irrévocable. Comment on doit comprendre cette notion d'union de substance? Ça a l'air très technique.
Ce concept emprunte directement au vocabulaire de la chimie, ou de la métallurgie en fait.
De la chimie?
Oui. Dans le monde physique, un assemblage mécanique, même très solide, peut toujours être démonté. Si on cloue deux planches ensemble, on peut retirer les clous.
Ça demande un effort, mais c'est faisable.
Voilà. Mais une fusion parfaite, ou une union de substances, ça signifie que deux éléments distincts sont combinés au point d'en former un troisième, d'une nature totalement nouvelle.
Ils deviennent indissociables.
Ils partagent désormais la même substance de base. Une fois cette fusion opérée, séparer les éléments dans leur état d'origine devient non seulement difficile, mais fondamentalement impossible par des moyens ordinaires.
D'où le terme « irrévocable ».
C'est exactement le sens du mot « irrévocable » ici.
Donc, si j'essaye de résumer ça simplement avec une image de la vie courante, on n'est pas comme deux briques de Lego emboîtées. Même si on appuie très fort sur deux briques, un bon choc ou un enfant qui tire dessus, et elles se séparent.
C'est ça, le Lego est irrévocable.
On est plutôt comme du sucre qu'on vient de touiller dans un café chaud. Une fois que le sucre est parfaitement dissous, il fait corps avec le liquide. Bonne chance pour récupérer les petits grains blancs intacts si on laisse tomber la tasse.
Cette image du sucre dans le café, ça traduit parfaitement le concept du texte.
C'est visuel au moins.
Si le sucre représente la personne et le café la divinité, l'erreur consisterait à croire qu'en faisant un faux pas, le sucre pourrait miraculeusement redevenir solide et s'extraire de la tasse de lui-même.
Ce qui défie les lois de la physique.
L'auteur utilise cette union de substances pour détruire la notion même de précarité spirituelle. Si la fusion est parfaite, glisser et tomber accidentellement hors de cette union devient une impossibilité pure et simple. C'est conceptuellement absurde.
D'accord.
Et comprendre cette absurdité, réaliser que la séparation est impossible, c'est ce qui permet enfin au dos de l'invité de venir se reposer contre le dossier de la chaise.
C'est intellectuellement hyper libérateur, on le comprend très bien en discutant là maintenant. Mais on sait à quel point le cerveau humain est têtu.
Oh que oui.
Une autre est de la vivre à 22h quand on est seul dans le noir et que l'anxiété où le regret de nos erreurs de la journée vient frapper à la porte.
C'est souvent là que tout bascule, le soir.
Et la source ne nous laisse pas en plan avec juste de la grande philosophie abstraite. Le texte atterrit sur un défi très concret. Il propose un exercice pratique à faire la nuit même.
Le défi du soir.
Il est écrit « Ton défi, ce soir, avant de dormir, dépose toutes tes culpabilités hors de ton atmosphère. » Il précise « Ton environnement spirituel ». C'est presque un exercice de nettoyage de l'air ambiant.
Et le moment choisi pour ce défi est crucial. Le soir, au moment du coucher, c'est typiquement l'instant où nos défenses intellectuelles baissent. C'est là que le cerveau se met à tourner en boucle sur tous les ratés de la journée.
L'heure de pointe de l'angoisse.
C'est l'heure de pointe du syndrome de l'imposteur, oui. Le lit se transforme en tribunal. L'auteur demande donc un acte de volonté conscient, prendre toutes ses culpabilités accumulées et les déposer littéralement hors de son atmosphère, c'est-à-dire les expulser de son espace mental et spirituel immédiat.
Comme si on sortait les poubelles mentales.
Il s'agit de créer une frontière étanche entre son identité profonde d'héritier permanent et les actions imparfaites de la journée qui vient de s'écouler.
Et pour matérialiser ce nettoyeur de l'atmosphère, le texte fournit une déclaration exacte, une phrase à prononcer à voix haute ou intérieurement.
C'est une déclaration d'une grande puissance.
Une phrase vraiment chirurgicale pour s'ancrer. La voici. Je reste assis avec toi, Père, car mon raccordement, ma connexion vitale, ne dépend pas de mes forces, mais de ta fidélité.
Ce mot raccordement est essentiel.
Oui, le mot raccordement m'interpelle particulièrement ici. Il est explicité par l'auteur comme étant une connexion vitale. On imagine presque l'infrastructure d'un hôpital ou d'une station spatiale, un câble d'alimentation qui maintient en vie.
Le choix du terme raccordement opère le transfert de responsabilité finale dans l'esprit de la personne.
Comment ça, le transfert de responsabilité ?
Quand on est angoissé, on vit avec l'illusion constante que c'est notre propre force de poigne, notre énergie morale, qui maintient la connexion au divin.
Qu'on tient la corde à la force des bras, quoi.
Si on relâche l'effort, si nos forces s'épuisent, on croit que le câble va se débrancher et qu'on va dériver dans le vide spatial. La déclaration vient corriger cette erreur d'infrastructure.
On n'est pas responsable de la solidité du câble.
Le texte affirme que ce raccordement ne dépend pas de nos forces vacillantes, mais de la fidélité de l'autre partie. La fidélité divine est présentée ici comme une constante inaltérable. C'est la véritable source d'énergie du câble.
Donc, concrètement, prononcer cette déclaration avant de dormir, c'est choisir de débrancher la prise de son propre générateur de secours.
Un générateur qu'on sait de toute façon défaillant.
Exactement. Pour s'appuyer entièrement sur le réseau principal qui est la fidélité de ce roi.
Tout à fait. C'est l'abandon de l'effort compulsif pour entrer enfin dans le repos de la confiance.
C'est beau.
En formulant que le raccordement dépend de la fidélité immuable du roi, l'individu s'autorise enfin à fermer les yeux, sans craindre que le monde spirituel ne s'effondre pendant son sommeil.
Ce parcours de réflexion, il nous mène tout droit vers l'image finale de ce document. C'est une conclusion qui rassemble vraiment tous les fils de la métaphore de manière poétique et franchement très rassurante.
L'aboutissement de tout ce cheminement.
Après le dîner à la table, après la petite leçon de droit immobilier sur le contrat de location et l'héritage, après la chimie de l'union de substance et la déclaration nocturne, l'auteur délivre un ordre de départ empreint d'une paix totale.
Oui, la fameuse ancre.
Il écrit « Va en paix, car l'ancre de ton âme est solidement fixée dans le sanctuaire céleste. L'ancre de l'âme solidement fixée. »
Cette conclusion est la synthèse parfaite de la transition identitaire qu'on vient d'explorer.
C'est la boucle qui se boucle.
On réalise que toute cette angoisse de performance du début, cette posture rigide sur le bout de la chaise, ce n'était finalement que le symptôme tragique d'une erreur d'identité. Une ignorance totale des véritables mécanismes d'attache.
L'invité avait juste oublié qui il était vraiment.
Tant qu'un individu se perçoit comme un simple locataire spirituel, il vit dans l'obsession de l'éviction imminente. Mais dès lors que la réalité du saut de propriété, du sang versé, du prix infini et de la fusion irrévocable est véritablement intégrée.
Intégrée au niveau du système nerveux, comme tu disais.
L'individu commence enfin à occuper son espace avec l'assurance tranquille d'un propriétaire légitime.
Et une ancre, par définition, c'est ce qui nous relie au fond marin quand la surface est agitée par la tempête.
C'est l'idée magistrale du texte, oui.
Ce n'est pas pour empêcher la tempête.
La solidité du bateau ne dépend pas de l'absence de vagues ou de la perfection des marins à bord. Elle dépend uniquement de l'endroit où l'ancre a mordu.
Et ici, elle a mordu dans le sanctuaire céleste.
Une zone, par définition, intouchable par les turbulences humaines. Nos humeurs changeantes, nos échecs ou nos réussites de la journée sont comme la météo à la surface. Ils n'ont absolument aucun pouvoir pour aller déloger l'ancre située dans les profondeurs de ce sanctuaire.
C'est fascinant. On part d'un invité tremblant et incertain, et on arrive à une embarcation impossible à faire dériver.
C'est une trajectoire fulgurante.
C'est une trajectoire de lecture qui a le mérite de la clarté et de l'impact immédiat pour quiconque choisit de faire cet exercice du raccordement en fin de journée.
L'application pratique est très directe.
Et cela soulève une pensée assez vertigineuse pour clore notre réflexion d'aujourd'hui. S'il est fondamentalement vrai que cette connexion vitale repose entièrement sur une fidélité extérieure inébranlable et que l'on parvient à abandonner totalement cette culpabilité hors de sa propre atmosphère...
Oui, quelles en sont les conséquences ?
On peut légitimement se demander comment cette transformation modifie notre rapport au monde extérieur, au-delà d'offrir simplement des nuits plus paisibles pour soi-même. Comment cette certitude écrasante d'appartenance pourrait-elle modifier radicalement la manière dont on choisit d'aimer, d'accepter et surtout de pardonner aux autres au quotidien ?
C'est la suite logique du raisonnement.
Quand on est soi-même définitivement libéré de l'angoisse terrifiante du contrat de location avec toutes ses clauses d'expulsion, ne devient-il pas impossible d'exiger des autres qu'ils soient parfaits pour mériter une place à notre propre table ?
C'est une question très profonde qui remet en perspective toutes nos relations humaines.
C'est une perspective qui invite vraiment à prolonger la réflexion bien au-delà de ces quelques paragraphes. Un grand merci à l'auditoire de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie. Gardons à l'esprit la solidité de cette ancre pour les moments de turbulence à venir et à très bientôt pour une nouvelle exploration.